Les Morgans de l'île d'Ouessant, de Françoise Morvan.
Avez-vous déjà entendu parler des Morgans et de l'île d'Ouessant? Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le dis, l'île d'Ouessant se trouve au large de la Bretagne, tout à l'ouest. Les Morgans sont des lutins de mer, mais des lutins tout à fait particuliers. Ils sont si jolis avec leurs joues roses, leurs boucles blondes et leurs yeux bleus qu'on a plutôt l'impression de voir des angelots qui jouent sur le sable. Des angelots qui ont un petit air sorcier, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait leur charme. Les Morgans sont de bonne composition, mais il ne faut jamais leur désobéir. Comme tous les lutins, ils détestent les curieux, les envieux, les convoiteux et ceux qui font des vœux stupides, non qu'à s'en mordre les doigts. Il leur arrive aussi d'emmener chez eux des gens de la terre. On raconte à ce sujet bien des histoires, comme l'histoire de Mona Kerbilly.
Mona était une fille de l'île si jolie, si blonde, avec des yeux si bleus, que certains disaient qu'elle était belle comme une Morgane.
D'ailleurs, ça doit être la fille d'un Morgan.
Il y a des mauvaises langues partout. Le père de Mona était pêcheur. Sa mère travaillait un petit coin de terre et, quand il faisait mauvais temps, restait à filer au chaud. Mona filait aussi, mais ce qui lui plaisait surtout, c'était de se mirer dans les flaques de la grève et, le soir, avant de se coucher, de peigner ses longs cheveux blonds qui bouclaient doucement jusqu'à ses pieds. Elle était, pour tout dire, assez coquette. Quand elle allait sur la grève avec des amis de son âge, elle restait un peu à l'écart. Les autres aimaient à parler de leurs amoureux. C'était à qui vanterait le sien. L'un n'avait pas son pareil pour prendre du poisson, l'autre pour diriger sa barque parmi les écueils. L'un était grand, l'autre était doux, l'un était beau, l'autre blond. Mona ne disait rien. Des amoureux, elle en aurait eu tant et plus si elle avait voulu, mais à force de s'entendre dire qu'elle était jolie, elle avait fini par regarder de haut tous les garçons de l'île. Elle se laissait faire la cour par le fils d'un pêcheur, un garçon grand et blond, si beau et si doux que toutes ses amies étaient jalouses, d'autant qu'il n'avait pas son pareil pour prendre du poisson et diriger sa barque entre les écueils. Mais elle ne faisait que le mener par le bout du nez. Un soir, voilà qu'elle descend sur la grève. La lumière est douce, l'île a cette légère odeur d'anis des soirs d'automne.
C'est le tien qui rentre, Mona.
C'est pas le mien.
T'as tort de te moquer de lui comme tu fais, c'est le meilleur pêcheur de l'île.
Moi, je ne prendrai jamais un pêcheur pour mari.
Jamais un pêcheur? Un marin, alors?
Pas de marin.
Pas de pêcheur, pas de marin. Un prince, peut-être?
Un prince, c'est ça.
Un prince qui viendra d'où?
Un prince qui s'en viendra de l'autre côté de la mer pour chercher mademoiselle. Plutôt un Morgan qu'un pêcheur.
Là-dessus, un vieux Morgan qui écoutait, caché derrière un rocher à goémons, sans faire ni une ni deux, se jette sur elle et l'emmène au fond de l'eau. Mona pousse un grand cri, mais comme si sa bouche se remplissait d'eau, c'est un cri silencieux. Et les autres voient une grande vague la recouvrir. Elles entrent dans l'eau aussi loin qu'elles peuvent, elles appellent Mona, mais aucune voix ne leur répond à travers l'eau. À l'instant qu'elle avait touché l'eau, la fille de la terre avait pris taille de Morgane et s'était sentie glisser comme une sole dans les plis de la mer. Le vieux Morgan qui l'avait emporté était le roi des Morgans du large. Il l'avait conduite au fond de la mer, dans son palais de nacre, et l'avait présentée à toute sa cour, non sans avoir bien pris la peine de la lier par un long ruban d'algues transparentes pour bien montrer qu'il la retenait pour fiancée. Les rois des clans Morgans ont tendance à vieillir assez mal, Certains d'entre eux rancissent et tout en se ridant deviennent autoritaires, d'autres avares et d'autres vaniteux. Le vieux roi des Morgans du Large n'avait pas cessé de s'aggraver depuis un siècle ou deux. En plus d'être autoritaire, avare comme un crabe vert et sourd comme une palourde, il était devenu cabotin. Il montrait sa capture à tous ceux qui venaient à lui rendre hommage et s'en faisaient gloire. Mona, se demandant encore ce qui lui arrivait, avait vu arriver à elle tous ces Morgans qui venaient l'admirer. Ils lui offraient des tissus précieux, des peignes de nacre et des perles fines. C'était à qui viendrait toucher ses longs cheveux, embrasser ses ongles ronds comme des coquillages et caresser amoureusement ses pieds. Quelles mœurs étranges, bien sûr, mais qu'il est doux d'être admiré. Et quel festin aussi. Mona, qui était habituée au pain d'orge et au ragoût de poisson, découvrait les gélatines couleur de framboise, les rôtis d'étrilles aux amandes de mer, les mousses d'oursin et les veloutés de crevettes, les glaces servies dans des moules bleu pâle et les sorbets dans des coquilles roses. La vie sous la mer n'est pas sans agrément. Le roi des Morgans, qui était un peu sourd, comme je l'ai déjà dit, surtout quand la surdité l'arrangeait, avait chargé son fils d'escorter la fille de la terre et de l'instruire des usages à connaître pour bien tenir son rang de reine des Morgans. Or, c'était un prince beau et mélancolique, le plus beau, le plus doux, le plus gracieux prince Morgan du clan des îles de l'Ouest. Un prince qui, s'ennuyant au palais, s'était à l'instant même pris d'intérêt pour cette mortelle prisonnière. Et Mona, le trouvant beau et mélancolique, comme elle était belle et mélancolique, était tombée amoureuse de lui comme il était amoureux d'elle.
J'avais bien dit que je n'épouserais qu'un prince ou un Morgan. Je ne vois pas pourquoi je n'épouserais pas un prince Morgan. C'était écrit. C'était la destinée.
C'était écrit. C'était la destinée.
Chez les Morgans, les rois les plus tyranniques ne sont jamais pris trop au sérieux. Ils vieillissent pendant quelques siècles, puis, au cours d'une nouvelle lune, rajeunissent et se mettent à folâtrer. Ils peuvent aussi changer d'idée, pour peu que la lune les touche. Ce côté lunatique facilite grandement la vie sous les flots. Le prince, ayant bien choisi son moment, va donc trouver son père.
Mon père, écoutez-moi. Je veux épouser la fille de la terre.
Comment ?
Je veux épouser la fille de la terre.
Mon fils, il ne manque pas de Morgane qui serait bien heureuse de vous épouser. J'ai pris pour moi cette fille de la terre, et elle me convient tout à fait.
Mon père, je ne me marierai qu'avec la fille de la terre. C'est moi qu'elle veut pour mari.
Pardon ?
C'est moi qu'elle veut pour mari.
Qui l'a dit ?
Elle.
Et qui lui a demandé son avis ? Je m'en vais vous marier, moi, à une Morgane de tout premier rang, pour vous faire oublier vos lubies.
Alors mon père, il ne me reste plus qu'à dépérir.
Et dans l'instant, le prince se met à dépérir. Abominablement vexé, le roi envoie Mona travailler aux cuisines sous la surveillance d'un crabe vert des plus hargneux.
Puisque vous ne voulez pas être reine, fille de la terre, vous serez cuisinière. Quant à mon fils, je m'en vais lui trouver chaussures à son pied. Et à mon goût, et tout.
Le jour même, il fait convoquer par plie d'urgence les Morgans de tous les royaumes en annonçant qu'il cherche une fiancée pour son fils. Au bout d'une lunaison, le prince n'est plus que l'ombre de lui-même. Le vieux roi lui présente une jeune Morgane, belle parmi les belles, fille d'un Morgan renommé dans toute la rade. Voilà fixé le jour du mariage. Présenté à sa fiancée, le prince croise les bras et lui tourne le dos. Mais la jeune Morgane, toute fière d'avoir été choisie, ne s'intéresse qu'aux parures de perles qu'on lui a offertes et aux soieries de mer qu'elle déroule autour d'elle.
« Mais oui, tout ira bien. Monsieur fait le boudeur, mais ça lui passera. »
Au jour dit, les deux fiancés, suivis d'un long cortège, se mettent en route pour l'église. En avant vont les fiancés, puis les hippocampes tenant la traîne de la mariée et les sonneurs de buxin. Mona a reçu ordre de rester au palais pour préparer le repas de noces, mais on ne lui a donné que des coquillages en guise de marmite, des galets en guise de flacons et trois vieilles moules percées en guise de louches et d'écumoires.
Tâchez de bien faire, fille de la terre. Si tout n'est pas prêt au retour, voyez mon grand sabre, c'est lui qui vous coupera la tête.
Dans les autres cuisines, on rit, on chante, on s'affaire. Les vagues portent l'arôme des plats qui cuisent. Mona appelle, mais personne ne répond. Il ne lui reste plus qu'à attendre la mort. Et le prince Morgan s'en va, le front bas. Mais comme le cortège approche de l'église, il bondit tout d'un coup.
J'ai oublié l'anneau de ma fiancée.
Je vais le faire chercher.
Non, je suis seul à savoir où il est. Attendez, je reviens un instant.
Avant qu'on ait eu le temps de le retenir, il a disparu. Il court droit au palais, ouvre d'un tour de clé la porte de la cuisine et trouve la pauvre Mona pleurant dans une patelle.
Consolez-vous, le repas sera prêt. Bon feu dans le foyer.
Et le feu s'allume dans la cheminée. Il touche de la main les coquillages.
Ici, du saumon rose.
Et le saumon rose se met à cuire entre les
ici,
aromates.
Des huîtres claires. Ici, de la gelée.
Et les grands coquillages à côte brune se remplissent de plats qui fument doucement. Les flacons de cristal miroitent dans les vagues. Les gelées sucrées tremblent dans la flamme des cheminées marines. Tout brille, tout étincelle. Mona embrasse la main du prince Morgan en la couvrant de larmes. Et le prince Morgan, bouleversé, l'embrasse aussi en pleurant dans son cou.
Mona.
Mon prince.
Mais il ne s'agit pas de traîner. Il prend son anneau dans sa poche, ferme la porte à clé et rejoint sa fiancée. On se rend à l'église où il est marié par un évêque de mer et l'on s'en revient au palais. Le vieux Morgan avait bien affûté son grand sabre et tout en approchant, méditait les phrases d'un discours furibond. Mais au détour du porche, il remue les narines.
Quel arôme ! Oh, quel arôme !
Il se rue dans le corridor qui mène à la cuisine. La porte est bien fermée à clé. Mona est là, tranquille, qui rêve près du feu de mer.
Tout est-il prêt ?
Oui.
Voyons donc.
Le roi soulève le couvercle des coquilles Saint-Jacques, plonge son nez dans les pétoncles. Oui, quel arôme, mes amis, quel arôme. C'est à s'évanouir de bonheur. Et c'est liqueur. Il en goûte une gorgée et tombe assis à la renverse.
C'est égal, vous avez été aidé. Mon fils commence à en savoir un peu trop long. Mais attendez, je n'ai pas dit mon dernier mot.
Il s'en va en claquant la porte et envoie les langoustes de service chercher les plats pour le repas de noces. On mange, on boit, on chante des hymnes aux mariés, puis on ouvre le bal, et après avoir festoyé, on danse jusqu'à la nuit tombée. Le vieux Morgan attend son heure. Voilà que le dernier rayon de soleil perce les vagues. Selon la coutume, les mariés sont invités à se retirer dans leur chambre.
Venez ici, fille de la terre, mettez-vous là, près de la porte, et prenez ce cierge. Vous resterez les éclairés jusqu'à ce que le cierge soit consumé.
Mona obéit. Que faire d'autre ? Le vieux Morgan reste attendre derrière la porte en passant le doigt sur le fil de son grand sabre.
Le cierge est-il consumé ?
Pas encore.
Le vieux Morgan va et vient en chantonnant. Le cierge diminue.
Le cierge est-il consumé ?
Pas encore.
il ne va pas tarder à s'éteindre. Le prince se met à grelotter.
J'ai froid. Ma chère, soyez aimable. Prenez le cierge des mains de la fille de la terre pendant qu'elle nous fera du feu.
La princesse se lève et prend le cierge des mains de Mona qui se met à genoux pour faire du feu.
Le cierge est-il consumé ?
Allons, ma chère. Dites oui, qu'on en finisse et qu'il s'en aille.
Et la princesse Morgane dit oui. Le roi se rue dans la chambre, lui tranche la tête d'un coup de sabre et se retire en ricanant. Et Mona reste près de son prince. Au soleil levé, le prince Morgan s'en va trouver son père.
Mon père, je veux me marier.
Vous n'êtes donc pas marié d'hier ?
Si, mais ma femme est morte.
Morte ? Vous l'avez tuée ?
Moi non, mon père. Mais vous ?
Comment ça ?
Comment ça ? Mais avec votre sabre.
Le vieux Morgan court dans la chambre de son fils, le voilà dans une telle fureur qu'en faisant tournoyer son sabre, il manque de tuer son fils. Mais le jeune prince, au temps de ses mélancolies, a bien lu les chroniques des anciens Morgans. Il sait se préserver des lames les plus tranchantes.
Mon père, je veux me marier.
Jamais !
Le vieux Morgan a beau se mettre en fureur, trépigner, hurler, fulminer, briser des prairies et des ormeaux, houspiller les langoustes et même bousculer les homards de sa garde, rien n'y fait.
Mon père, je veux me marier avec la fille de la terre.
Tous ses conseillers se rassemblent.
C'est un obstiné.
Allons, laissez-le faire.
La vieille Lotte, sa conseilleuse, insiste.
S'il dépérit par trop, vous n'aurez plus de fils.
C'est bon qu'il se marie, qu'on n'en parle plus, nom d'une prêtre.
À la nouvelle lune, le mariage est célébré discrètement, sans festin ni danse. Mais le cœur du jeune prince est comme un goémon qui éclate de joie. Et Mona est le cœur de ce cœur. Pour elle, de ce jour, quelle belle vie! Le prince ne savait que faire pour lui plaire. Il lui offrait des dentelles de houle, des soieries, des nacres, des robes toutes brodées de fleurs des sables, des diadèmes d'écailles si fines et si brillantes que l'argent même de la moirure des congres paraissait tout terne à côté. Il lui offrait des étoles de lune si souples que les vagues semblaient venir s'y lisser. Et tout était porté par un bonheur si grand qu'on finissait par se demander si cela durerait, et parfois même comment il se faisait que cela durait tant. Le prince avait fait venir au palais des ourleuses de laminaire et des brodeuses d'écume aux doigts fins pour faire à Mona des robes nouvelles. Chaque jour, c'était une merveille qui sortait de leurs mains. Il y avait des robes couleur de lune, des robes couleur d'étoile et des robes couleur de soleil, comme on en trouve dans tous les contes, mais aussi des robes couleur de groseille, toutes rebrodées d'anémones de mer, cerclées de gros pétales blancs et, plus beau que tout, une robe vert émeraude à larges plis fermés par des marguerites de mer aux pétales bouclant autour d'un cœur au jaune si doux, si lumineux qu'on se sentait les larmes aux yeux rien qu'à le voir. Et ces marguerites de mer bouclaient délicatement autour des tempes de Mona. C'était plaisir de la voir passer au bras de son prince dans la salle au miroir.
Vous êtes comme un reflet de soleil d'avril.
Je voudrais que mes parents puissent me voir.
Et, parfois encore, en faisant poser des voilages dans la grande chambre du palais,
comme je voudrais que mes pauvres parents puissent me voir.
Et, parfois encore, en s'approchant des plages de l'île,
oh, comme je voudrais aller avec vous, loin là-bas, de l'autre côté de l'eau. voir mes pauvres parents.
Ce n'est pas possible, vous le savez bien. Mon père n'y consentira pas.
Mais, de plus en plus souvent, Mona disait qu'elle aurait voulu, ne serait-ce qu'une fois, une seule fois, revoir son père et sa mère. Le prince ne voulait pas la laisser partir. Il avait bien trop peur qu'elle oublie de revenir. Les jours passent, les lunes se succèdent. Mona est prise d'une humeur grise qui se change en tristesse si profonde qu'elle n'essaie plus ses robes, ne danse plus et se rapproche jour après jour toujours un peu plus du rivage, comme une prisonnière qui cherche à s'enfuir. Le prince, après avoir longuement étudié les vieilles chroniques, finit par se décider un matin.
Allons, souriez-moi, et je vous conduirai à l'île.
Quand ?
Aujourd'hui.
Mais est-ce que votre père le voudra ?
J'ai pouvoir de le faire vouloir.
Mona sourit, embrasse le prince, se précipite dans sa chambre, passe sa robe couleur d'émeraude et laisse ses cheveux blonds flotter sous son diadème de marguerite de mer.
Comme vous voilà belle et souriante avec ça, une fois n'est pas coutume. Où allez-vous ?
Mon père, j'ai promis à la fille de la terre de la laisser revoir son père.
Vous n'irez pas ?
J'irai par force ou par pouvoir.
J'irai avec vous.
C'est bien, mon père. Allons.
Mona sourit et s'élève dans les vagues derrière son prince. Arrivée à la naissance de la 9e vague...
Contraille, élève-toi.
Un pont de verre s'élève du fond de la mer à la terre. Mona s'engage sur le pont, suivie du prince, lui-même suivi de son père. Ils s'avancent tous les trois à travers ciel, puis descendent jusqu'à la crique où se trouve la maison du pêcheur. Mona, pour la première fois depuis si longtemps, met le pied sur l'île, reprend sa taille de mortelle et, prise de vertige, s'arrête. Le prince se retourne.
Pontraille, abaisse-toi.
Et le pont s'engloutit au fond de l'eau avec le vieux Morgan.
Revenez ici au coucher du soleil.
Le prince se laisse glisser dans la mer avant que Mona ait eu le temps de le voir avec ses yeux de fille de la terre.
Mais n'oubliez pas, ne vous laissez embrasser par aucun homme en vie. Si un mortel vous embrassait, vous m'oublieriez aussitôt.
Mona se met à genoux devant la mer pour promettre, mais le prince a déjà disparu. Il ne lui reste plus qu'à courir chez son père. C'est l'heure du déjeuner, toute la famille se trouve réunie, mais il fait sombre dans la maison de Pierre.
Bonjour à vous, mon père. Bonjour à vous, ma mère.
À voir dans la lumière du soleil cette belle dame en soierie de mère qui entre chez eux, le père, la mère et les frères de Mona, qui sont grands maintenant, restent bouche bée, la cuillère en l'air. Alors, voyant que personne ne la reconnaît, Mona se met à faire le tour de la maison en touchant chaque objet de la main.
Là, c'est le galet où je m'asseyais auprès du feu. Là, c'est la cruche avec laquelle j'allais puiser de l'eau à la fontaine. Là, derrière la porte, le balai de genêt qui me servait le soir. Et là, C'est l'écuelle de bois où je mangeais ma soupe. J'y avais même gravé mon nom.
Mona.
C'est Mona.
Son frère se jette à son cou et l'embrasse. Son père et sa mère en font autant. Mona les embrasse aussi. Elle a oublié son mari et sa vie sous la mer. Mona voit défiler jour après jour tous ceux qui ont voulu savoir ce qui lui était advenu, et ses anciens amoureux, et les parents de ses anciens amoureux, et les parents de ce pêcheur si doux, si blond, qui est parti en mer et qui ne revient pas. Mais nombreux sont les amoureux qui reviennent. Et le temps passe. Les soirées s'usent. Mona s'ennuie. Descend attendre sur la grève sans savoir quoi. Sourit à tous. Reçoit les fiancés qui se présentent. Et pense parfois à se laisser fiancer par simple lassitude. Si un jour revient ce pêcheur blond qui s'est fait marin. Les soirées s'usent, se ternissent. Mona, le soir, aime parfois glisser le doigt sur l'étoffe douce au soleil, mais sa mémoire reste silencieuse. Les nuits de tempête seulement, comme un ancien rêve, une image brumeuse lui revient et s'efface. Il y a devant la maison du pêcheur une petite aire avec une meule de paille d'orge toute battue de vent. Et quand Mona est couchée dans son lit, sous les vagues qui hurlent en se brisant sur les rochers tout près, elle entend comme une plainte et tremble et peine à se rendormir. Et voilà qu'une nuit que la tempête gronde plus fort, elle entend comme au loin, dans la rumeur des vagues, une voix qui tremble.
Mona, vous m'aviez bien promis.
Alors, elle se rappelle tout. Et touchant de la main la grande vague qui arrive vers la fenêtre, elle sent la main du prince qui l'emporte comme une écume au large. Et plus personne jamais ne l'a revue.
C'était « Les Morgans de l'île d'Ouessant » de Françoise Morvan, présenté par Agnès Sourdillon. Le Morgan et la fille de la terre, raconté par Christophe Brault, avec Keren Marciano, Émilien Tessier, Alexandre Bézeau, Claire Latreille, Sophie Pincemaille, Sophie Gubry, Philippe Brunteau, Jean-Jacques Cholet. Bruitiste, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bruno Mourlan. Assistante, Delphine Lemaire. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. L'album « Les Morgans de l'île d'Ouessant » paraît au mois de mars 2006 aux éditions Ouest France.